la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » sur Jet FM et « Je lire » cette semaine un livre de dessin. Un livre de dessin de Cardon. Vous connaissez probablement ses traits, son dessin, notamment si vous êtes lecteur du mythique Canard enchaîné. Jacques Armand Cardon est un dessinateur qui œuvre au sein de cet hebdomadaire satirique depuis de nombreuses décennies. C'est un homme qui, comme il l'explique dans l'introduction de ce livre, Cathédrale Cardon, était un jeune enfant au moment de la Seconde Guerre mondiale qui, pour lui, est synonyme d'une certaine tragédie familiale. Il perd son père et d'exode et aussi de révélations graphiques. Je vous livrerai dans un instant quelques extraits de cette introduction très très belle, très bien rédigée. Jacques Armand Cardon qui a donc pris le temps d'écrire quelque chose d'assez autobiographique pour introduire ce livre qui est, lui, une suite de dessins tout à fait saisissants. Alors, c'est les très belles éditions Le Monte en l'air et Super Loto Édition, associées pour publier ce très gros livre format à l'italienne, qui coûte 30 euros et qui fait, en quelques 150 pages, le tour d'un travail de dessin tout à fait étonnant. Cathédrale Cardon, parce que Cardon est fasciné par les cathédrales, ou plus exactement, Notre-Dame de Paris. À la suite peut-être de Victor Hugo, et d'une autre manière que lui, à travers des dessins pleines pages dans ce format à l'italienne, au crayon noir, peut-être du bic, peut-être une toute petite plume, je ne sais pas bien. Il travaille dans la matière, il travaille dans la pierre, il travaille les matières, les humains, les quelques animaux qui passent par là, et puis de la pierre, de la matière, beaucoup du fer, de la corde. Et dans ces détails qui sont comme des extraits de l'architecture de la cathédrale, comme des petits passages, comme des couloirs, comme des contreforts, eh bien, se loge toute une vie et aussi toute une mort. Il est beaucoup question de mort, et d'ailleurs les références graphiques qui sont émaillées dans ce livre amène très souvent à des moments de l'histoire récente, on va dire de la deuxième partie du XXe siècle notamment, et de ce début de XXIe, des histoires souvent de souffrance et de mort, d'oppression. Mais tout cela ne passe que par le dessin, uniquement le dessin. Il n'y a pas de texte, ou très peu, ou s'il y a du texte, ça va être un graffiti sur une pierre ou un panneau. Quelque chose comme des possibilités pour les humains, d'essayer de survivre au sein d'un univers un rien oppressant et en même temps assez ouvert. Il y a toujours un point de fuite, l'horizon, la lumière qui vient entre deux pierres. Et puis un homme qu'on pourrait considérer comme le personnage principal, qu'on voit très souvent de dos, qui est entièrement nu, complètement chauve, presque échappé d'un univers de Moebius, peut-être des mondes d'Edena, d'Arzac, je ne sais pas, mais avec quelque chose de beaucoup plus assuré et tremblotant peut-être. Et ce personnage, peut-être symbole de l'humanité, se promène, observe, et parfois en prise avec d'autres, parfois coincé, parfois libre. Il n'y a pas que la mort, il y a aussi l'absurdité. Il y a Charlie Chaplin, il y a Agnès Varda, il y a de l'art, il y a toute une vie, peut-être toute la vie, toutes les références de Jacques Armand Cardon dans ce très beau livre baptisé Cathédrale. C'est un livre bâti d'ailleurs comme une cathédrale et avec une forme de chronologie et quelque chose à comprendre, mais quelque chose, comme vous l'avez entendu dans ma chronique, qui échappe aussi à la compréhension et qui permet des interprétations, des possibilités, qui permet surtout de se dire, une fois qu'on l'a refermé, je le rouvre dès que possible et je reprends le temps de lire les détails du dessin, d'essayer de comprendre encore et encore d'autres choses, ou de ne pas comprendre, mais de se laisser porter par tous ces petits traits qui couvrent la page et qui sont tout à fait fascinants et saisissants à l'image, par exemple, d'un long tuyau qui serpente au sein de la cathédrale dans quelques-unes des pages. C'est vraiment un livre magnifique qui est sorti il y a déjà quelques mois et qu'il ne faudrait pas oublier ou louper, parce que c'est la somme d'une œuvre probablement méconnue de son auteur, plus connue pour ses dessins politiques ou satiriques. Et Et ça n'est pas exempt de politique non plus d'ailleurs, et on en retrouve quelques figures au sein de ce cathédral Cardon. Je vous le disais, pourquoi pas livrer un peu de l'écriture de Cardon, qui écrit fort bien, et son introduction, qu'il a baptisée Fondation, est tout à fait explicite sur sa démarche, sur sa vie et sur son œil qui se forge. En voici un petit extrait, c'est le début de Fondation. Porte de bronze, opposait ma tante Antoinette, sœur aînée de ma mère, aux questions inopportunes. Outre le doigt sur les lèvres, sa sévérité affichée d'initié imposait silence sans appel. Que pouvait donc bien sceller cette porte imposante dont les lourds vantaux devaient résonner longtemps à chaque fermeture ? Masse hostile, imprécise, mais dressée là de toujours, tutelle mystérieuse, impérieuse, dont je devais m'accommoder comme tout le monde. Je ne la voyais d'ailleurs que fermée à tout appel à s'ouvrir sur les pourquoi du quotidien. Tout autre était celle de bois blond de la chapelle de l'asile où, le dimanche, priaient les sœurs et ma grand-mère, chapeautées de paille noire. J'avais 6 ans. La guerre nous avait fait nous déplacer plusieurs fois depuis l'exode de juin 1940. Nous venions de trouver refuge chez les sœurs franciscaines de l'asile d'aliénés de Rolleville, en Normandie. Silence conventuel, vert paradis près de ma grand-mère paternelle retrouvée. Les Allemands, ayant vidé de leurs habitants l'est de la rue Bazan, quartier Notre-Dame, au Havre, en avril 1942. Pour nous, le calme, enfin, avec juste le son des cloches de l'asile sur les vaches broutant sous les pommiers. Nous étions, là, dans une ferme, annexe de l'asile. En marge des bombardements tels celui sur Billancourt, le soir du 3 mars 1942, auquel nous venions d'échapper, abrités le temps de l'alerte, dans le métro Mercel-Samba. On me dit plus tard que j'étais resté sans parler les 8 jours suivants, à dessiner Nimbus, que mon oncle, frère de ma mère, me découpait dans le journal. Nimbus auquel s'ajouta, à l'asile, une collection des pieds nickelés, apportés par ma grand-mère et 1000 fois feuilletés par mon père et ses frères. Pas besoin de savoir lire pour apprécier les roublardises des 3 compères. Les dessins de Forton truffés de points d'exclamation étaient éloquents. Quelque chose de mon père était présent dans ces images. Lui, au stalag, là-bas, dont je ne savais plus ni le visage ni la voix, s'était réjoui, comme je le faisais, de l'inventivité inépuisable de Ribouledingue, Croquignol et Filochard. Ils osaient tout. Eux se seraient carapatés du stalag. Les lettres de Stuttgart arrivaient une fois par mois, je crois, écrites au crayon pour la censure. Avec la même fréquence, ils recevaient de nos nouvelles et parfois 1 ou 2 photos de la famille souriant pour la forme. La suite sera plus triste pour la famille de Jacques-Armand Cardon et je saute quelques pages de cette très belle introduction du livre Cathédrale Cardon pour vous livrer la fin de cette introduction qui est un autre choc esthétique qui va guider notamment tous ces dessins de cathédrale. À cette période-là, à la fin de la guerre, Jacques-Armand Cardon et sa famille sont revenus à Paris. Mon oncle et moi, chaque dimanche matin, sortions en garçon. C'était le grand tour pour saluer le zouave avant de gagner l'Arc de Triomphe ou d'aller admirer, sous la tour Eiffel, les avions de la Libération. Une fois aux Invalides, après le tombeau de l'empereur, l'oncle me passa son stylo mine pour que j'ajoute mon nom sur l'arrière du char de Leclerc, exposé sur la terrasse, près des canons de bronze et déjà couvert de signatures. La vue de Notre-Dame, après la chapelle de l'asile et la grise collégiale de granit de Rostranen, fut un véritable choc. L'œil tout de suite capté, séduit par ces étages de pierre, balcons et plateformes, comme des ponts entre les tours, où se penchait tout un peuple de chimères regardant Paris par-dessus les niches des rois et des saints. Les colonnes bourgeonnant d'une floraison d'avant le déluge dont parlait le catéchisme. Tout cela n'était que plaisir du regard gourmand. Ce que j'avais devant moi dépassait tout ce que j'avais pu imaginer pour la porte de bronze. L'envie de m'y plonger, de me perdre entre colonnes et statues, jusqu'à y trouver un coin où m'installer pour bien m'en imprégner, fut immédiate. La sensation qu'un infini était contenu dans l'édifice, qu'il était chargé d'une vie inconnue, d'un monde mystérieux à découvrir, s'imposa d'emblée et ne me quitta plus. Plus tard, je sus, en lisant Notre-Dame de Paris, que Victor Hugo lui aussi avait eu le même choc visuel. La savante structure édifiée pour interpeller l'imaginaire avait fait son œuvre en lui inspirant la sienne. inscrire sur les pages du livre de Pierre le palimpseste de l'humaine condition frappée par la fatalité depuis le péché originel. La cathédrale elle-même n'emportait-elle pas le stigmate, cet ananké mystérieux, gravé dans sa pierre? Il me gêna tout de suite ce fatum funeste auquel adhérait Hugo jusqu'à en faire la clé de voûte de son roman. Rien de ce que j'avais vécu, constaté de visu, ne portait le sceau d'une quelconque puissance autre qu'humaine. Les pendus, les yeux crevés de Torquéo, l'homme torturé, mort chez le docteur Garnier, les photos des atrocités rapportées par les journaux, la mort de mon père, étaient le fait des nazis, en chair et en os, et de rien d'autre. Ni malédiction, sortilège obscur ou fatalité, cette invention, si pratique pour dédouaner les hommes de leurs responsabilités dans les malheurs du monde, en leur épargnant de surcroît tout châtiment pour leur permettre de mourir dans leur lit en passant le relais à une descendance du même tonneau, bientôt aussi sanglante. Aujourd'hui, l'ananké s'est effacée sur les pages du livre de Pierre. Les momeries romantiques 1830 qui faisaient pleurer Mimi Pinson ou la grisette de Gavarni ne marchent plus. La réalité a dépassé la dose acceptable. La cathédrale doit contenir bien d'autres choses. C'était un extrait de l'introduction que Jacques Armand Cardon fait à son livre Cathédrale, un livre de dessin absolument somptueux, qui coûte 30 euros, qui est copublié par les éditions Le Monte en l'air et Super Loto Édition. Qu'il soit grandement remercié d'avoir produit cet ouvrage. Nous écoutons, pour clore cette chronique Je lire, une histoire de cathédrale de nouveau, un extrait du disque La musique d'Alan, publié sur le label Vision Fugitive, autour de l'œuvre d'un autre dessinateur, Emmanuel Guibert, et de ses mémoires d'Alan Ingrankop, son grand ami. Il a été question d'en faire de la musique, et c'est Bill Carother, Peg Carother, Jean-Marc Fols, Philippe Mouratoglou, Stéphane Oliva et Matt Turner qui produisent cette très belle musique inspirée par l'œuvre d'Emmanuel Guibert. Et il est question de cathédrale dans le morceau que nous écoutons.
Farewell till we meet again.